Parlons de Molière. L'auteur qui fait des pièces et qui les joue lui-même, s'il fait des chefs-d'œuvre et s'il les interprète, il devient alors et de toute évidence un auteur accompli.
Notre semaine Molière, deuxième épisode, un auteur accompli, sûrement un comique nouveau aussi.
Et pourquoi vous faites pas une pièce comique ? Parce que les gens, ils veulent qu'une chose, c'est se distraire. Ils veulent oublier leurs soucis. Ils ont pas envie de se... Vous voyez, regardez ce soir, par exemple, c'était plein. Mais les gens, non, mais les gens, en général, ils préfèrent quand c'est drôle. À mon avis, vous devriez faire du...
Ah, le comique de Molière, venu tout droit, bien sûr, de la farce médiévale et de la Commedia dell'arte, n'est-ce pas ? Et lointain aïeul de notre théâtre de boulevard que recommande Bacri. Que n'a-t-on dit du comique de Molière ? En réalité, si Molière, revenu à Paris en 1658, n'avait écouté que lui, sans doute aurait-il présenté souvent des tragédies ou des comédies sérieuses, comme il disait. Mais c'est un entrepreneur de théâtre et le théâtre est un commerce qui identifie la demande. Le public de Molière veut rire, il le fera rire, mais comment ? Molière va répondre à l'attente en ouvrant des portes que l'attente ne soupçonne pas. Plus précisément, il va offrir aux gens de qualité qui composent quasi exclusivement ces salles des miroirs où ils pourront rire tous leurs sous, mais d'eux. Molière va jouer avec leurs valeurs, ils auront le bon goût d'y prendre du plaisir en se moquant d'eux-mêmes. Le théâtre, bien entendu, ajoute de la noblesse au commerce. Quand le public avec lequel il commerce est déjà noble, on peut parvenir à un comique bien plus subtil que ne l'avouent les apparences.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Georges Forestier, qui est notre invité pendant cette semaine Molière, deuxième épisode aujourd'hui. Il faut d'abord, après vous avoir dit bonjour.
Bonjour.
Que je dise, plus précisément, que l'éditeur de Molière, vous avez fait aussi une biographie de Racine, un livre fort savant sur la génétique théâtrale chez Corneille. Vous enseignez à Paris-Sorbonne à de jeunes étudiants. J'aimerais bien savoir comment vous observez ce public.
J'observe un public qui est passionné. Même pour un théâtre qui a 3 siècles, quelquefois on glisse toujours une œuvre moins connue que les Corneille, Molière, Racine. Et c'est toujours un public passionné qui s'intéresse souvent plus à l'œuvre la moins connue qu'à l'autre si on arrive à mettre en perspective et à jouer avec les comparaisons et les différences.
Je peux en témoigner parce qu'il y a 2 collaborateurs de notre émission, Éline Canegulesco et Martin Cellier, qui a fort bien préparé celle-ci, qui ont été de vos étudiants et qui en gardent quelques souvenirs. Enfin, quand même, ça ne doit pas être toujours facile.
Pourquoi ?
Vous n'avez pas les mêmes références, vous n'avez pas la même chose dans la tête qu'eux.
Ah, on n'est pas obligé de vieillir aussi vite que son visage et que ses artères.
Par exemple, vous les surprenez. Je me demande s'il n'y a pas quand même un peu de démagogie dans tout ça.
Ah, je l'attendais.
En leur parlant d'emblée, ils sont en licence pourtant, de Danny Boone. Il paraît qu'il y a une comparaison possible à faire entre les sketchs de Danny Boone. Celui-ci, par exemple, où il propose que les assurés et les assureurs rient ensemble de leurs mésaventures et les pièces comiques de Molière.
J'ai une voiture de vedette.
Hein ? Une Mercedes limousine.
Voilà, j'étais donc dans ma voiture de vedette, hein, dans Paris. Je faisais un créneau, un très beau créneau, mais un créneau de Twingo, j'avais 4 mètres de voiture en trop. On change pas d'où on vient. Oh, ça a touché, non ? Effectivement, j'avais défoncé le pare-choc dans un poteau parisien, qui n'a pas gueulé, c'est étonnant pour un poteau parisien. Et donc, dans ces cas-là, on n'appelle pas l'assureur, pourtant on est assuré pour ce genre de choses, mais à cause du malus, hein. Encore une invention de salaud, ça, le malus. C'est vrai, on paye tous ici des assurances, des fortunes, et pourtant, dès qu'il y a un problème, on est les premiers à dire hey, « on s'arrange comme ça, on n'appelle pas l'assurance, hein. On s'arrange entre nous, hein. On n'appelle pas l'assurance. Oh. » Ça a l'air stupide, mais ça l'est pas. Parce que par exemple, si la maison brûle, l'assureur vous dit
« C'était des flammes bleues, fallait des jaunes. Relisez votre contrat. »
Et c'est vrai, quand on lit le contrat et qu'on le signe, c'est pas marqué, c'est uniquement quand on le referme, hop, c'est écrit sur la tranche. Ah.
Bon, vous me regardez du coin de l'œil, j'avoue que je sens assez mal le rapport. Je vois bien des mots latins, malus, comme dans le langage de Diafoirus. Je vois bien que Danny Boone gagne beaucoup d'argent comme Molière, mais...
Le rapport entre les deux, il est beaucoup plus étroit qu'on ne pense, et c'est pas du tout démagogique. C'est-à-dire, en fait, ce que fait Danny Boone, c'est ce que faisait Molière à ses débuts, c'est-à-dire, il fait de l'humour avec les comportements. Molière, d'abord, c'est le premier humoriste de l'histoire du comique et du théâtre français. C'est pas l'humour au sens anglais du terme, c'est humoriste au sens contemporain que font les humoristes de théâtre, enfin comme Danny Boone justement. C'est-à-dire, il transforme en sketch des comportements contemporains, des défauts contemporains. Danny Boone, il joue avec la poste, il joue avec l'hypocondrie, les médicaments, il joue avec tout un genre de choses, dont ensuite il a été capable de tirer des films, puisque son célèbre film Bienvenue chez les Ch'tis joue autour de la poste, qui a été un de ses sketchs les plus importants, etc. Son dernier film, Superchondriaque, joue avec un de ses sketchs sur son hypocondrie, etc. Alors, ça c'est le premier point, c'est-à-dire il joue avec certaines des valeurs contemporaines partagées par un certain nombre de membres de son public, et il en fait des objets de comique. Et le deuxième point, c'est que Molière, on le sait, sa caractéristique, c'est que dès 1660 à Paris, quand il crée le rôle de Sganarelle, dans une pièce qui ça va s'appeler Sganarelle ou le cocu imaginaire, il enlève son demi-masque à l'italienne de mascarille, dans laquelle il avait triomphé avec les précieuses ridicules, et il se met à jouer avec un visage dont les contemporains disent qu'il est capable de le démonter plus de 20 fois en une seule scène. C'est-à-dire qu'il joue avec des grimaces, il joue avec des alternances de son de voix, avec des cris, etc. Exactement comme fait aujourd'hui Danny Boone. C'est la raison pour laquelle je les rapproche, parce que je dis pas que Molière c'était le Danny Boone d'aujourd'hui, je dis plutôt que Danny Boone c'est un héritier de Molière.
Oui, ben je commence à comprendre, je vais peut-être abonder dans votre sens. Évidemment, si l'enregistrement qu'avait choisi Stéphane Ronxin ne nous présentait pas des rires en cascade pré-enregistrés, on pourrait dire qu'il y a un autre point commun entre Danny Boone et Molière, c'est l'interaction avec le public. Selon la façon dont le public réagit, pas automatiquement comme dans l'enregistrement qu'on vient d'entendre, Danny Boone s'adapte.
Tout à fait, surtout que Molière alternait pour des raisons conjoncturelles qui seraient trop longues à expliquer, alternait des pièces en prose et des pièces en vers. Et dans les pièces en prose, évidemment, il comptait sur la capacité d'improvisation de ses acteurs et de lui-même. Donc voilà, il y a une sens de l'adaptation qui est considérable. Ce qu'on entend dans le générique initial, à savoir que la caractéristique de Molière par rapport à tous les autres auteurs de théâtre français, c'est qu'il était à la fois comédien et auteur, c'est fondamental.
Allez, il y a encore un autre point commun. Les sujets successifs, ça n'a ni queue ni tête, un sketch de Danny Boone, et ben une pièce de Molière non plus. Enfin, ça passe d'un sujet à l'autre.
Exactement. Il y a beaucoup de pièces de Molière qui sont des manières de coudre ensemble ce qui aurait pu être des sketchs, pas seulement les fâcheux, mais le fâcheux, c'est la caricature absolue de cela. Le fâcheux, c'est une revue. D'ailleurs, c'est une comédie ballet, fondée sur le principe des entrées de ballet, et il a conçu sa pièce comme étant des entrées elles-mêmes. De dire donc il y a des entrées de personnages, mais quand on voit le misanthrope, c'est exactement le même principe. Cette fameuse pièce la plus morale de Molière, en fait, c'est un bricolage qui lui permet de coudre en scène des scènes typiques, l'aristocrate qui se pique de poésie, le dialogue entre la prude et la coquette, etc., etc., avec le même principe dans Les Fâcheux, c'est-à-dire l'homme veut poser une question à la femme, et il n'arrive à la poser, parce qu'il y a des fâcheux qui défilent, qu'à la fin de la pièce. C'était en trois actes dans Les Fâcheux, c'est en cinq actes dans Le Misanthrope, mais c'est le même principe.
Bon, alors on va suivre le même principe. Parlant de votre enseignement, je vous interrogeais sur votre public cible. Entendant Danny Boone, on s'interroge sur le public cible de Danny Boone et celui de Molière. Quel est-il le public cible? Alors, il y a un deuxième grand morceau de bravoure maintenant dans les cours de Georges Forestier, si je vous ai bien entendu, pour faire effet de contraste avec Danny Boone. Vous aimez diffuser à vos étudiants la version du bourgeois gentilhomme. Vous savez, la mise en scène de Benjamin Lazare, Olivier Martin Salvant et Monsieur Jourdain. Et on y parle comme dans le public cible de Molière, comme dans les milieux mondains et galants qui constituaient ses spectateurs.
Ce ton de voix sentencieux, cette exactitude de prononciation qui appuie sur toutes les syllabes et ne laisse échapper aucune lettre de la plus sévère orthographe.
Comment ? Vous voilà le plus propre du monde.
Vous voyez ?
Vous avez tout à fait bon air avec cet habit. Et nous n'avons point de jeunes gens à la cour qui soient mieux faits que vous.
Aïe, aïe!
Tournez-vous! Cela est tout à fait galant. La foi, monsieur Jourdain, j'avais une impatience étrange de vous voir. Vous êtes l'homme du monde que j'estime le plus, et je parlais de vous encore ce matin dans la chambre du rouet.
Vous me faites beaucoup d'honneur, monsieur, dans la chambre du rouet.
Cette façon, monsieur Forestier, de parler qui doit étonner vos étudiants, telle qu'elle est restituée dans cette version du bourgeois, elle correspondait à un milieu réel, le milieu des galants, le milieu des mondains, un autre?
C'est un peu compliqué. Ça correspond en fait à la manière théâtrale de parler. Donc il faut distinguer deux choses. D'une part, la matière ridicule de parler, c'est-à-dire le petit bout de l'extrait qu'on a entendu, c'est Molière qui fait dire à un de ses comédiens qu'il doit jouer le rôle du poète, c'est-à-dire du pédant, en accentuant sur chaque syllabe, chaque lettre, etc. Et ça, c'est une manière pédante de parler. À l'inverse, c'est la manière galante de parler, c'est-à-dire les honnêtes gens du beau monde qui insistent le moins possible justement sur cette bonne prononciation. Mais il n'empêche que, premièrement, il roulait les R, parce qu'on ne savait pas parler autrement qu'en roulant les R. Il n'y en a que la bourgeoisie parisienne qui ne les roulait pas, celle qui va prendre le pouvoir en 1789 et qui du coup va nous imposer un changement de prononciation qui est celui que nous avons encore actuellement. On prononçait les ouais, etc. Donc il y avait tout un aspect qui était lié à la prononciation elle-même. Et puis en troisième lieu, il y avait la dimension orale, enfin publique de la parole, c'est-à-dire aussi bien au théâtre que dans les tribunaux, que dans les églises, lorsqu'un orateur se mettait à parler ou un acteur se mettait à parler, il devait articuler la belle parole. La belle parole, c'est celle qui fait bien entendre tous les sons, et notamment les consonnes finales devant une pause ou, lorsqu'il s'agit de vers, à la rime. C'est ce qui explique qu'on puisse faire rimer Titus et Vertus, par exemple, que Racine fasse rimer Titus et Vertus, et non pas Titu et Vertu. Et c'est de là que vient le mot de tennis en anglais. C'est parce que, au jeu de paume, l'arbitre qui donne la balle dit « tenez », il dit pas non pas « tenez », il disait « tenesse ». Et le « tenesse », c'est devenu le tennis, évidemment. Tout ça parce que cette articulation forte était essentielle au XVIIe siècle.
Alors arrêtons-nous en laissant de côté l'art oratoire, l'art de la chair ou du plateau, ou les ridicules des fâcheux et des pédants, sur la façon mondaine et galante de parler, mais pas seulement de parler, de poser des gestes, de s'exprimer avec son corps, d'être, parce que c'est une façon de vie, et c'est celle de Molière.
Exactement, c'est-à-dire que par son éducation, enfin son milieu, comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps, il fréquente la haute bourgeoisie.
Comment on dit hier d'ailleurs ?
Exactement, hier.
Comment
hier,
on
disait hier.
Ah, bon, vous l'avez dit hier.
C'est du français, oui. Il fréquente la haute bourgeoisie et l'aristocratie, c'est-à-dire la clientèle de son père. Il fréquente la cour aussi, c'est-à-dire que dans ces milieux-là, le bon ton, c'est d'être galant. Et qu'est-ce que ça veut dire être galant ? La notion d'honnête homme est issue de là. Les fameux « je ne sais quoi », l'expression du « je ne sais quoi » qui va définir ce qu'on appelle le classicisme aujourd'hui, c'est le sont les galants qui l'inventent. C'est-à-dire que la manière de se piquer de rien, il faut savoir un peu de tout, ne se piquer de rien. Lorsqu'on entre dans un salon, et dans le plus célèbre des salons, qui est celui de Madame de Rambouillet, eh bien, l'homme d'épée doit laisser son épée au vestiaire, et doit s'efforcer de parler poésie. Et le poète, lorsqu'il est invité, ça veut dire lorsqu'il n'est pas pédant, doit laisser sa poésie au vestiaire, et ne parler de poésie que lorsqu'il y est invité. C'est-à-dire qu'on fait des jeux, on invente des petits poèmes, des poèmes galants. C'est ainsi que le plus célèbre des poètes galants de l'époque, qui s'appelle Vincent Voiture, remet à la mode les petits vers, les rondeaux, les ballades, des choses qui étaient du temps de Marot et qui étaient complètement passées de mode parce qu'on peut faire ces jeux-là dans les salons. On fait beaucoup d'impromptus. Et c'est pas pour rien que Molière, lorsqu'il va présenter ses fâcheux, dans la préface des fâcheux, il dit « ça a été fait en 8 jours, je ne dis pas cela pour me piquer de l'impromptu », dit-il. Mais oui, il se pique de l'impromptu parce que l'art de faire des vers sur le champ, quasiment improvisé, c'est le comble de l'art, précisément.
Donc voilà. Il faut savoir faire vite, aller d'un bord à l'autre.
Exactement. Et en plus, il y a une notion fondamentale chez les galants, dans les milieux mondains donc, qui est l'enjouement. Et une sensation d'autodérision. C'est la raison pour laquelle, le jour où Molière a eu l'idée formidable de se lancer dans cette voie sans faire exprès, en parodiant, en transposant au théâtre une parodie de la galanterie qu'il a appelée les précieuses ridicules.
Son premier triomphe à Paris.
Ouais. Exactement, son premier triomphe à Paris en novembre 59. Eh bien, son premier public qu'il a applaudi le plus et qu'il a suivi, ce sont les galants eux-mêmes, qui étaient burlesquement caricaturés, évidemment, dans la pièce, mais c'était leur milieu qui était mis sur la scène. Et c'est la première fois qu'on mettait sur la scène le milieu parisien le plus huppé.
Enfin, c'était leur milieu, mais c'était ceux qui, dans le milieu, exagérait, dépassait l'idéal modéré, de bon goût, d'urbanité heureuse que vous avez décrit, et s'isolait par un comportement hautain, pédant et fâcheux.
Oui, mais ça, c'est une minorité. Molière joue à la fois à les dénoncer dans certaines de ses pièces, notamment dans Les Fâcheux, notamment dans Le Misanthrope. Mais il est évident que la première de toutes ces pièces, qui est Les Précieuses Ridicules, le Marquis de Mascarille, il dénonce pas un comportement excessif d'un galant. Il joue de façon burlesque, outrancière, le comportement de tous les galants. Et c'est ça qui lui aura plu.
Le comportement de tous ceux qui sont déphasés, maladroits, excessifs. On va prendre un exemple, c'est Monsieur de Pourceaugnac. On n'a pas parlé des parlers locaux. Monsieur de Pourceaugnac, il parle limousin ?
Il parle un peu sorte de patois du sud-ouest. C'est un mélange, comme les paysans du Don Juan parleront, un sorte de patois du nord de Paris.
Et il est l'étranger qui est aussitôt désigné comme tel par la communauté dans laquelle il ne peut s'intégrer. La voix que certains de nos auditeurs vont reconnaître, c'est celle de Guy Pierrot dans une mise en scène télévisée de Jean Kerchbrun.
Voici notre homme. Oh, songeons à nous. Ne pouvoir faire un pas sans trouver des nigauds qui nous regardent se mettre à rire. Hé, messieurs les badauds, faites vos affaires et laissez passer les personnes sans leur rire au nez.
Mais qu'est-ce que c'est, messieurs? Que veut dire cela? À qui en avez-vous? Faut-il se moquer ainsi des honnêtes étrangers qui arrivent tous?
Voilà un homme raisonnable, celui-là!
Mais quel procédé le montre? Qu'avez-vous à rire?
Fort bien!
Monsieur, a-t-il quelque chose de ridicule en soi?
Oui!
Est-il autrement que les autres?
Suis-je tordu ou bossu?
Apprenez à connaître les gens!
C'est bien dit!
Monsieur est d'une mine à respecter!
Cela est vrai?
Personne de condition!
Oui, gentilhomme limousin!
Homme d'esprit!
Qui a étudié en droit!
Il vous fait trop d'honneur de venir dans votre ville!
Sans doute!
Monsieur n'est point une personne à faire rire!
Assurément!
Mais quiconque rira de mieux à suivre à moi!
Monsieur, je vous suis infiniment obligé!
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Prêtez l'oreille, nous sommes à la Comédie Française au printemps 1944, enregistrement qui a été diffusé le 2 juillet 1944.
Voici le mari que je vous donne.
À moi, mon père ?
Oui, à vous, ma fille.
Oh, je ne veux pas me marier.
Mais je veux modifier votre père.
Je n'en ferai rien.
Oh, ben c'est de bruit. Alors, vous dites ça à votre mère.
Il est vrai que vous êtes mon père, oui, que je vous dois entière obéissance, et que c'est à vous de vous donnera selon vos volontés.
Ah, je suis heureux de vouloir venir aussi franchement dans votre devoir, et cela me fait ravi d'avoir une fille obéissante.
Oh, bon, on ne peut pas dire cela. On dit que vous voulez donner votre fille en mariage dans le carême promis.
Je vais marier votre fille avec le fils du grand turc.
Avec le fils du grand turc.
Oui, mais enfin, je suis Mamamouchi, je ne suis pas Mamamouchi, voyons.
Hein. Rému, le grand Mamamouchi, dans le mariage forcé. Alors, le mariage forcé, ça commence par un charivari. Il faut qu'on parle maintenant des femmes dans les représentations comiques de Molière.
Le mariage forcé, ça finit par un charivari, mais c'est l'idée de départ de Molière et de Lully, parce que Lully avait composé un célèbre charivari pour un grand ballet de cour quelques années plus tôt. Et donc l'idée, ça a été de demander dans l'urgence pour le carnaval de 1664 à Molière et à Lully de faire une comédie-ballet. Et donc le point de départ, c'est le charivari, c'est-à-dire un mariage désassorti, c'est-à-dire la moquerie que l'on fait lorsqu'il y a un mariage désassorti. Et Molière, évidemment, a inversé les choses, c'est-à-dire qu'au lieu de faire en sorte que ce soit l'homme qui veut épouser une jeunette, là c'est l'homme qui veut se marier, et puis à la fin, découvrant que la jeunette est une coquette qui s'apprête quasiment à le faire cocus avant même le mariage, il veut plus se marier. Et d'où le fait qu'on l'oblige malgré tout à se marier, et que sous peine de recevoir des coups de bâton, il va se marier.
Il s'aperçoit, Molière, que les femmes, comment on dirait dans le jargon d'aujourd'hui, très pédant et très fâcheux, sont décisionnaires.
Et ça, ce sont les salons qui inventent ça. C'est-à-dire, c'est le milieu des salons parisiens qu'on va appeler les milieux galants sont des milieux qui sont dominés par les femmes, puisque ce sont elles les hôtesses, puisque ce sont pour se conformer à leur raffinement que les hommes se mettent à être raffinés. Ce sont des salons qui sont créés postérieurement aux guerres de religion, aux guerres d'Henri IV, etc. À l'époque où la cour était encore rude et crottée, comme on disait, c'est-à-dire dans les années 10, 20. Et c'est à ce moment-là que le raffinement est allé de plus en plus important. Et du coup, le raffinement est allé aussi avec... Qu'est-ce que c'est qu'être une femme au XVIIe siècle ? Qu'est-ce que c'est qu'être une épouse? Qu'est-ce que c'est que le mariage? Faut-il éduquer les femmes quand on voit que dans les collèges des hommes, on apprend le latin, etc., et que dans les institutions religieuses où vont les femmes, on apprend tout au plus à lire, à compter et à savoir tenir un ménage, et que les femmes les plus de la plus haute aristocratie ont des précepteurs qui leur donnent des leçons presque qui sont seuls des hommes, sauf le latin. C'est la raison pour laquelle le français explose à ce moment-là dans les livres et qu'il y a de plus en plus de livres destinés aux dames où l'on apprend les choses qu'on apprenait aux hommes en latin. Et c'est la raison pour laquelle Molière s'empare de ce sujet-là. C'est-à-dire que l'école des maris, déjà Sganarelle ou le Coq imaginaire, mais surtout en 61 l'école des maris, en fin 62 l'école des femmes, mettent sur le devant de la scène la question de l'éducation des femmes et des bourgeois rétrogrades qui en reste à la conception paulinienne du mariage, c'est-à-dire où l'homme peut tout sur sa femme.
Paulinien Saint-Paul.
Saint-Paul.
Sur le devant de la scène, Georges Forestier, mais les femmes ont un rôle très important dans la compagnie, qui est maintenant dirigée comme acteur, auteur, orateur, directeur par Molière dans les actes notariés qui vous sont chers. Il y a une colonne de droite, une colonne de gauche. Il y a presque autant de femmes dans la colonne de gauche que d'hommes dans la colonne de droite.
Et elles envoient au chapitre autant que les hommes. Un directeur de troupe au XVIIe siècle, c'est pas du tout comme un directeur de troupe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il s'occupe, en ce qui concerne Molière, de prendre certaines orientations, de composer pour la troupe, et puis c'est tout. Les travaux, qui est-ce qui les dirige, ce sont les autres. Les livres de comptes, qui est-ce qui les tiennent, ce sont les autres. Certaines décisions, ce sont des femmes qui les prennent. Il y a véritablement, ce sont, comme on le disait au XVIIe, des républiques.
En tout cas, il observe de près les comportements de ces actrices dans la pluralité des voix.
Vous êtes ce que vous représentez. Vous faites le poète, vous. Et vous devez vous remplir de ce personnage, hein? Marqué cet air pédant qui se conserve parmi le commerce du beau monde. Pour vous, vous faites un honnête homme de cour, c'est-à-dire que vous devez prendre un air posé, un ton de voix naturel, et gesticuler le moins qu'il vous sera possible. Vous représentez une de ces femmes qui, pourvu qu'elle ne fasse point l'amour, croit que tout le reste leur est permis. Et de ces femmes qui se retranchent toujours fièrement sur leur pruderie, regardent un chacun de haut en bas, et veulent que toutes les plus belles qualités que possèdent les autres ne soient rien en comparaison d'un misérable honneur dont personne ne se soucie. Ayez toujours ce caractère devant les yeux pour en bien faire les grimaces. Hein? Je vous dis tous vos caractères afin que vous vous les imprimiez fortement dans l'esprit. Hein?
L'impromptu de Versailles, imprimons ce mot dans l'esprit, 1664, Jean Piat dans le rôle de Molière, et toujours imprimons ce mot dans l'esprit, galant, galant, le mot galant.
C'est le public. Le public de Molière est principalement le public galant. Celui qui est assis sur le théâtre, celui qui est dans les premières et les deuxièmes loges, une partie de celui qui est dans l'amphithéâtre constitue le public principal de Molière. Et quant à celui qui est dans le parterre, c'est-à-dire les bourgeois, la bourgeoisie commerçante des Halles, on le sait, ils sont définis tels quels dans beaucoup de textes de l'époque, eh bien, c'est le public qui fournit des marchandises, des tissus, etc., à cette aristocratie haute bourgeoisie galante. Donc en fait, il écrit pour ces gens-là. Il sait qu'ils se réjouissent de voir porter sur le théâtre de façon burlesque et dérisoire et parodique leur propre comportement. Il sait qu'ils se réjouissent de voir porter sur le public les personnages qu'ils ont en horreur, c'est-à-dire le bourgeois rétrograde et traditionnel qui veut épouser les jeunettes, qui veut contraindre les femmes n'avoir aucune éducation, qui veut que leurs femmes soient le plus sottes possible, pensant que plus elles sont sottes, plus elles seront fidèles. C'est le point de départ de l'école des femmes. C'est une exagération, bien sûr. Mais ça, c'est, il y a à la fois dans les dénonciations, dans les ridicules, comme dans Monsieur de Pourceaugnac, le hobereau provincial, c'est aussi la hantise de la bourgeoisie et de, surtout de l'aristocratie galante parisienne.
C'est dans ce quartier qu'est le théâtre du Palais Royal, où s'installe après le petit Bourbon Molière et sa troupe. C'est dans ce quartier qu'il se marie avec Armande Béjart et qu'il habite. Mariage 1662. Là, oui. C'est un mariage de commodité, c'est un mariage de raison.
Ah, difficile.
Ça permet de verrouiller l'héritage des Poquelin et l'héritage des Béjart.
Difficile de savoir, mais franchement, on peut pas savoir. La conclusion à laquelle je suis arrivé dans mes dernières recherches, c'est que Armande Béjart avait été tenue soigneusement à l'écart de la troupe, contrairement aux légendes où on la voit courir entre les jupes de Madeleine et les basques de Molière pendant toute la province. Elle a été élevée dans une institution religieuse pendant très longtemps. Et en fait, elle n'est pas comédienne. alors même qu'une enfant de la balle aurait dû être comédienne s'il était. Et elle arrive dans la troupe grâce au mariage avec Molière. Elle se révèle tout de suite une très bonne actrice, mais elle arrive grâce au mariage. Donc, qu'il y ait de sa part un mariage d'amour, qu'il y ait de la part de Molière aussi un mariage d'amour, c'est pas impossible. Qu'il y ait de la part de la mère Madeleine Béjart, et non pas de la sœur, de la mère, j'insiste, Madeleine Béjart, une manière de verrouiller aussi la troupe autour de la famille, ça, ce n'est pas impossible non plus.
L'école des femmes, juste un mot de son argument.
L'école des femmes, c'est précisément, comme l'école des maris, c'est la démonstration qu'il est impossible de garder une femme, puisqu'elle retrouvera toujours un moyen de s'enfuir pour rejoindre son galant, et que la vertu des femmes, c'est le meilleur gardien qui soit, c'est la leçon de l'école des maris. Molière enchaîne là-dessus, puisqu'on ne peut pas garder une femme, eh bien, il faut la rendre la plus sotte possible, faire une éducation où elle sera complètement abrutie, puisque, évidemment, dans ce cas-là, elle ne se rendra pas compte que la vérité, il sait qu'il y a deux types d'hommes, des élégants et mignons, et des vieux qui ont du pouvoir, et qu'elle les suivra, le premier qui sera elle. Et évidemment, la leçon des choses, c'est que plus une femme est bête, moins elle se rendra compte qu'elle faute si elle faute. Donc il faut qu'elles aient de l'éducation.
C'est joué en janvier.
Décembre, 26 décembre 1662.
Voilà. Et aussitôt après que une petite fronde s'est déclenchée, petite, hein, parce que le roi, la reine, la reine-mère ont applaudi, Molière décide de faire du buzz, et quelques mois à peine après le succès de l'École des femmes, de donner la critique de l'École des femmes, où il met en scène, en les multipliant de manière un peu artificielle, ses contradicteurs et contradictrices.
Quel est donc votre mal? Et depuis quand vous a-t-il pris?
Il y a plus de 3 heures, et je l'ai rapporté du palais royal.
Comment?
Je viens de voir, pour mes péchés, cette méchante rhapsodie de l'école des femmes. Je suis encore en défaillance du mal de cœur que cela m'a donné, et je pense que je n'en reviendrai de plus de 15 jours.
Oh, vous voyez, un peu comme les maladies arrivent sans qu'on y songe.
Je ne sais pas de quel tempérament nous sommes, ma cousine et moi, mais nous fûmes avant-hier à la même pièce, et nous en revînmes toutes deux saines et gaillardes.
Oh! Vous l'avez vu?
Oui, et écoutez, d'un bout à l'autre.
Et vous n'en avez pas été jusqu'aux convulsions, ma chère?
Ah, je ne suis pas si délicate, Dieu merci, et je trouve pour moi que cette comédie serait plutôt capable de guérir les gens que de les rendre malades.
Oh! Détestable! Et la tarte à la crème m'a fadi le cœur, et j'ai pensé vomir au potage.
Que vous êtes, madame, une rude joueuse en critique, et que je plains le pauvre Molière de vous avoir pour ennemi.
Une rude joueuse en cryptique, dans une mise en scène de Pierre-Aimé Touchard, Daniel Lebrun et Françoise Seignet. Alors ça marche, ce système, parce qu'il y a l'école des femmes, la critique de l'école des femmes, l'hôtel de Bourgogne joue la contre-critique de l'école des femmes. Tout ça, ça fait d'ailleurs un même spectacle devant le roi, avec les deux troupes qui alternent. Quand même, on se demande si à cette date-là, il n'a pas un peu passé la mesure. Déjà qu'il a scandalisé avec son mariage avec Armande, une fille 2 fois plus jeune que lui.
Je ne sais pas s'il a scandalisé, parce qu'on avait l'habitude au XVIIe siècle de se marier avec des filles qui avaient 2 fois plus jeunes que lui. Ce sur quoi il scandalise les dévots, c'est quand précisément il s'attaque à la conception traditionnelle du mariage. Et il le fait depuis l'école des maris à coup sûr. Et violemment depuis l'école des femmes. Et on dira de lui qu'il a commencé à faire monter l'athéisme sur le théâtre. Mais il est encouragé à ça. Le roi est entouré d'incrédules. Le roi, il va à la messe tous les dimanches, il observe tous les rites religieux, il est le gardien de l'Église de France. Mais en même temps, il est lui-même à ce moment-là incrédule. C'est pas le roi dévot des années 80 et 90. À ce moment-là, encore une fois, toute la cour, l'essentiel de la cour qui l'entoure est incrédule. Il y a bien sûr sa mère, qui meurt en 66, et qui jusqu'en 66, elle est dévote, mais ça n'empêche pas de faire le carnaval, de courir, de se tenir les côtes quand elle a vu l'école des femmes, et c'est un gazetier de l'époque qui le dit. Donc, ce milieu-là encourage Molière à aller un peu plus loin, c'est-à-dire à attaquer carrément les dévots sur ce qui est le cœur de la dévotion, à savoir le fait d'avoir un directeur de conscience. Et ça va être Tartuffe.
Et il va, dans le prochain épisode, demain, se mettre à l'école de ses ennemis. Merci à vous, Georges Forestier. L'émission a été préparée par un de vos anciens étudiants, Martin Cellier, Stéphane Ronxin à la réalisation, Stéphane Poitvin à la technique.